critique de l'offensive protectionniste de Donald Trump à base de droits de douane. La Commission européenne se donne 6 mois pour architecturer une riposte, précision de Bruxelles dans un instant. La Suisse, taxée à 39%, tente de renégocier, qui plus est eu égard aux majorations appliquées à ses produits pharmaceutiques. Sa présidente et son ministre de l'économie ont pris l'avion pour Washington. Jérémy Lanche nous appellera de Genève. Un seul entrant, un seul sortant, c'est le slogan qui accompagne l'accord migratoire France-Grande-Bretagne à la veille de son entrée en vigueur. Son contenu avec Arthur Fradin. Quelle cohérence prêter à ce texte ? Commentaire de l'historien Yvan Gasteau. Nous serons en ligne de Jérusalem avec Michel Paul pour évoquer la tenue cet après-midi d'une réunion de sécurité restreinte après les propos de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien ambitionne de réoccuper totalement la bande de Gaza. En France, le Premier ministre a recours à des podcasts plusieurs fois par semaine pour convaincre les Français de la pertinence de son plan budgétaire. Première fourniture cet après-midi, précision d'Antoine Maret. Puis à la fin de cette édition, nous prendrons la mesure des dégâts causés par un méga feu qui ravage le Grand Canyon, l'un des parcs naturels de l'Ouest américain. Elles seront toujours sur la table, mais ne seront pas appliquées. Elles, ce sont les mesures de rétorsion envisagées par la Commission européenne, dont la présidente, Ursula von der Leyen, a décidé de repousser de 6 mois la riposte. Riposte aux droits de douane imposée par Donald Trump le 27 juillet dernier en Écosse. Un délai qui en laisse plus d'un perplexe eu égard à la brutalité avec laquelle Donald Trump défabrique et refaçonne à son avantage les règles du commerce mondial. C'est une correspondance de Bruxelles. D'Elsa Le Souarn.
À Bruxelles, on continue à présenter ces droits de douane portés à 15% comme le moins pire scénario possible. Mais on a conscience que cet accord reste fragile à cause notamment de l'imprévisibilité du président américain Donald Trump. Mais aussi, car pour l'heure, rien n'est formalisé. Un haut fonctionnaire européen confiait ce matin que les 27 attendent désormais de recevoir un document de la part des États-Unis. Un texte sans valeur contraignante, mais une manière de cadrer un peu plus les modalités de ces tarifs douaniers. Le document n'est ce soir toujours pas parvenu à Bruxelles. Surtout, quasiment tous les détails restent encore à régler, à négocier. Les quotas d'acier, les possibles exemptions sur certains produits. C'est en fait l'incertitude sur les modalités exactes de l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers qui sont prévus à partir de ce jeudi. En cas de besoin, côté européen, on n'exclut donc pas de ressortir cette série de mesures de rétorsion. Une liste de produits américains taxés à hauteur de 30%, adoptée à l'issue de plusieurs mois de négociations entre pays européens. Cela aurait concerné notamment le soja, les avions ou les voitures, le tout pour un montant total estimé à 93 milliards d'euros. Autre mesure, la possibilité d'une taxe sur les services, souvent qualifiée de bazooka commerciale, qui aurait permis une taxe spéciale sur les géants américains de la tech.
Autre champ d'incertitude et non des moindres, la promesse, toujours dans le cadre de ses engagements pris en Écosse, d'acheter, pour ne pas être taxé à plus de 15%, pour 750 milliards de dollars d'hydrocarbures aux États-Unis en 3 ans. Autrement dit, en Europe, on l'aura compris, le camp des le mieux est l'ennemi du bien forci. Quand d'autres pays, beaucoup plus taxés que l'Union européenne, auraient pour adage « on n'a rien à perdre » à tenter de renégocier avec l'administration Trump. C'est le cas de la Suisse. À Genève pour RFI et France Culture, Jérémy Lanche.
L'objectif du voyage, c'est de présenter aux États-Unis une offre plus attrayante de partenariat commercial. La dernière a été jetée à la poubelle par Donald Trump, alors que Berne pensait sincèrement décrocher un accord encore plus favorable que l'Union européenne. Mais voilà, un ultime entretien jeudi dernier entre le président américain et son homologue suisse, Karine Keller-Sutter, se serait très mal passé, au point qu'un conseiller de la Maison-Blanche aurait discrètement suggéré aux Suisses de mettre un terme à la conversation. Depuis, Donald Trump s'est justifié, expliquant que la Suisse fait fortune avec ses produits pharmaceutiques qu'elle exporte aux États-Unis. Le secteur, qui est un pilier de l'économie nationale, croyait d'ailleurs être épargné par les taxes. C'est loupé. Trump évoque maintenant jusqu'à 250% de droits de douane. Les élus suisses vont donc devoir faire preuve de persuasion et sans doute accepter de passer à la caisse. Dans le pire des scénarios, les experts tablent sur un recul de 1% du PIB suisse et n'excluent pas une possible récession.
Merci à vous, Jérémy Lanche. La Commission européenne a validé la semaine dernière un accord migratoire entre la France et la Grande-Bretagne qui entrera en vigueur demain. Le texte prévoit le retour en France des personnes migrantes arrivées sur des embarcations de fortune au Royaume-Uni en échange de l'envoi outre-Manche de migrants se trouvant en France. Plus de précisions avec vous, Arthur Fradin.
Eh bien, il repose sur le principe du 1 pour 1, reprise par la France de personnes arrivées illégalement au Royaume-Uni en échange de l'envoi de migrants qui se trouvent en France de l'autre côté de la Manche. Concrètement, on a donc des retours en France qui vont concerner uniquement les migrants arrivés par small boats, ces petites embarcations de fortune, et qui se sont vus refuser leur demande d'asile. Dans l'autre sens, ça reste encore flou. Londres acceptera des personnes se trouvant en France, ayant fait une demande sur une plateforme en ligne avec une priorité donnée aux personnes ayant un lien avec le Royaume-Uni. Le ministère de l'Intérieur français vante aujourd'hui un accord qui va casser les filières de passeurs, mais tout le monde n'approuve pas. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, estime lui qu'avec ce texte, le Royaume-Uni va bénéficier de l'immigration choisie, alors que la France endurera une immigration subie. Les associations d'aide aux migrants dénoncent un échange de vie humaine contraire au droit international. On ne sait pas encore combien de personnes seront concernées par le dispositif.
Il s'agit donc de casser les filières, ce sont les termes du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le dispositif, est-il précisé, ne vaut que pour des migrants qui n'ont jamais tenté de traverser illégalement la Manche. N'est-ce pas illusoire de prétendre ainsi décourager les filières ? Un défi titanesque qui relève plus de l'effet d'annonce que de mesures efficaces, selon l'historien Yvan Gastaud.
L'ambition peut-être est-elle de limiter les filières, de tordre le cou aux passeurs. Est-ce qu'il va en aller véritablement dans ce sens-là ? Je suis pas certain. En revanche, je pense que l'ambition, elle est surtout de considérer que l'immigration est quelque chose que l'on est en train de prendre à bras-le-corps. L'effet est surtout symbolique dans ce cœur de l'été pour montrer que, au niveau des relations diplomatiques, on n'oublie pas qu'il faut s'occuper des migrations et particulièrement le mal vient effectivement des filières et des passeurs. C'est le message qui est donné par cet accord. C'est pas le premier. Le problème, c'est qu'on est pris dans une nébuleuse d'accords sans que véritablement les choses ne changent. Moi, en tant qu'historien, j'ai vu depuis de longues décennies des accords diplomatiques bilatéraux, comme c'est le cas ici, ou au contraire, pris par l'Europe. Et bien souvent, il y a des effets d'annonce. Sur le terrain, c'est pas forcément suivi d'effet. Je pense pas que les moyens apportés soient suffisamment spectaculaires pour changer la donne. Avoir le mythe de l'hermétisme en Europe et d'avoir le mythe de l'hermétisme en France ou en Angleterre est quelque chose qui aujourd'hui doit être sans doute dépassé, mais il me semble que sur ce sujet-là, on n'y est pas avec cet accord.
L'historien Yvan Gastaud, propos recueillis par Savannah Ruellan. Il est 18h07, vous écoutez le journal de France Culture. Des frappes russes ont fait 6 morts dans le sud et le nord-est de l'Ukraine, dont un cheminot à Lozova, plaque tournante des transports dans la région de Kharkiv, à la frontière avec la Russie. Et puis la Lituanie demande l'aide de l'OTAN pour sa défense aérienne après un incident impliquant un drone russe trouvé la semaine dernière. Il portait une charge explosive. Israël doit vaincre totalement le Hamas à Gaza, déclaration du Premier ministre israélien en amont d'une réunion de sécurité restreinte prévue ce mardi, en présence notamment des ministres de la Défense et des Affaires stratégiques et du chef d'état-major de l'armée. Le chef d'état-major de l'armée, qui comme une bonne partie de la haute hiérarchie militaire, est hostile à une réoccupation totale de l'enclave palestinienne. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Correspondant de RFI, vous êtes en direct de Jérusalem. Michel, Benjamin Netanyahou se heurte aux réticences de plus en plus marquées de l'armée.
Oui, le sort en est jeté. L'armée israélienne va occuper Gaza. C'est ce qu'affirme en fait ce soir un haut responsable politique israélien. Depuis hier soir, le bureau du Premier ministre israélien multiplie les briefings sur une intensification de l'offensive israélienne à Gaza et un des scénarios invoqués parle de la conquête pure et simple de ce territoire. Alors, une rencontre entre le Premier ministre israélien, le ministre de la Défense Katz et le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, vient d'avoir lieu. La hiérarchie militaire israélienne est, comme vous l'avez dit, très réticente à l'idée de combattre dans des secteurs qui pourraient mettre en danger la vie des otages. Cela pourrait mener à la démission du chef d'état-major. Par la suite, plus tard dans la semaine, c'est le cabinet de sécurité restreint qui devrait se réunir. Lui seul, en principe, peut prendre la décision d'intensifier l'offensive. On saura alors si on a affaire à des menaces visant à ressusciter une négociation pour un accord de cessez-le-feu ou alors si nous nous trouvons véritablement à la veille d'une escalade considérable de la guerre à Gaza.
Merci à vous, Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem. Une puissante commission du Congrès américain à majorité républicaine annonce avoir assigné à comparaître l'ex-président démocrate Bill Clinton et son épouse, l'ancienne chef de la diplomatie Hillary Clinton, et ce dans le cadre de son enquête parlementaire sur l'affaire du délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Enfin, la disparition à l'âge de 95 ans de l'ancien président roumain Ion Iliescu, longtemps considéré comme le petit père de la nation, mais également accusé d'être responsable de la transition chaotique de ce pays d'Europe de l'Est du communisme à la démocratie. La ville de Vierzon, dans le Cher, a décidé d'abroger son arrêté interdisant la mendicité dans son centre-ville. Ce texte a fait l'objet d'un recours de la Ligue des droits de l'homme que le tribunal administratif d'Orléans devait examiner demain. Faire des économies, quoi qu'il en coûte, François Bayrou vient de lancer une série d'interventions sur YouTube tout à l'heure. Il devrait également réaliser des podcasts plusieurs fois par semaine ce mois d'août. Il va ainsi s'exprimer directement face aux Français pour tenter de les convaincre de son plan budgétaire, appelons-le, visant à économiser 43,8 milliards d'euros pour ramener le déficit public à 4,6% en 2026. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Mathieu.
Vous avez fait l'effort de visionner pour nous cette première vidéo.
Une vidéo de 8 minutes, format très court pour François Bayrou, enregistrée et avec de nombreuses coupures. Le chef du gouvernement est assis dans un bureau en bras de chemise, sans micro-cravate, comme s'il conversait avec les Français. Mais de conversation, il n'y en a pas. Pas de journaliste pour le relancer, pas d'adversaire politique pour le contredire. François Bayrou prêche seul la bonne parole, un peu comme un instituteur. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes.
Nous sommes menacés par un mal auquel nous n'échapperons pas si nous ne sommes pas courageux. Ce mal, c'est, vous le connaissez dans toutes vos familles, c'est le surendettement. Quand on est obligé d'emprunter, non pas pour acheter une maison, pour l'équipement de la maison ou pour acheter une voiture, mais simplement pour payer les frais de tous les jours. Quand on est obligé d'emprunter et qu'on ne peut plus rembourser sans aller tous les mois à la banque pour demander un crédit supplémentaire qu'on vous fait payer de plus en plus cher, ça s'appelle le surendettement et c'est un mal qui menace votre survie.
François Bayrou veut donc sauver la France en faisant des économies budgétaires. À travers ses vidéos, il souhaite s'adresser directement aux Français.
Le but de cette communication directe que je vous propose, c'est que vous forgiez vous-même votre propre opinion. Si quelqu'un pense le contraire de ce que je dis, il a le devoir de le dire et de le défendre devant les Français.
Et c'est ce qui se passera l'automne lors de l'examen du budget 2026, et c'est loin d'être gagné pour François Bayrou. Ce premier épisode totalise un peu plus d'une heure après sa mise en ligne, environ 3200 vues.
Merci à vous, Antoine Marette. Un trésor naturel en grand danger. La grande barrière de corail subit le plus grand blanchissement jamais observé selon le rapport gouvernemental australien. Des inondations et des glissements de terrain d'une intensité et d'une fréquence inédite en Inde en pleine mousson et des méga-feux. Redoutable tableau de bord incomplet qui redit les conséquences du changement climatique. Bonsoir Sandrine Etoa-Andegue en direct de Washington.
Bonsoir à tous.
Méga feu, Sandrine, comme celui qui ravage le Grand Canyon.
Et oui, ça fait un mois maintenant que plus d'un millier de pompiers combattent ce méga feu qui ravage en effet l'un des parcs naturels parmi les plus connus au monde. Et ce, malgré une mobilisation jour et nuit sur terre et dans les airs, l'incendie qui a été déclenché par la foudre le 4 juillet n'est toujours pas maîtrisé. Sur les images des chaînes d'information, on peut voir un nuage massif de fumée noire qui flotte au-dessus de l'immense gorge rouge-orangée. Le feu n'est contenu qu'à 13% et il risque de s'étendre dans les prochains jours à cause d'une végétation qui est très inflammable et d'un temps très sec et très chaud dans l'état de l'Arizona. Il est déjà considéré comme le plus gros incendie de l'année aux États-Unis, avec près de 50 000 hectares qui sont partis en fumée, ainsi que plusieurs dizaines d'infrastructures détruites sur la rive nord. Cette rive nord qui a d'ailleurs été fermée au public jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire la mi-octobre. La rive sud, celle qui est la plus fréquentée par les quelques 4,5 millions de touristes, elle est toujours accessible, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Toujours est-il que les sénateurs démocrates de l'État de l'Arizona ont critiqué la réaction tardive du gouvernement fédéral de Donald Trump face à la propagation rapide du brasier.
Sandrine, en quelques mots, cet incendie intervient, il faut le souligner, dans un contexte d'importantes coupes budgétaires dans plusieurs agences fédérales.
Oui, et c'est un sujet très sensible qui avait été relancé après les incendies meurtriers qui ont touché la Californie en janvier. L'administration Trump a en effet imposé des baisses de financement et des licenciements à l'agence chargée des forêts, à l'agence en charge de l'observation océanique et atmosphérique et à la FEMA, l'agence fédérale de gestion des catastrophes. L'incompétence de Trump met des vies en danger, c'est ce qu'a posté sur X début juillet le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, après un énième incendie dans son état.
Merci à vous, Sandrine et Toa Ndeg, en direct de Washington. Quelques mots de météo pour refermer ce journal. Demain mercredi, temps calme et souvent ensoleillé. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia et la technique Alexandre Dang.